Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi, 19h, 20h30. Alors on va encore avoir beaucoup de choses à vous raconter au cours de cette émission. On aura la partie foot à partir de 20h, hein, on retrouvera notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport comme chaque lundi. On ira aussi du côté d'Elancourt, un moment où se déroule donc le salon du livre sportif. C'est notre ami Bernard Delatte qu'on aura donc tout à l'heure aussi au téléphone. Et puis après avoir parlé de Dart, après avoir parlé de MMA, après avoir parlé de boxe ces dernières semaines, on va parler aujourd'hui golf avec nos deux invités. Je salue celui qui était à peu près dans nos studios il y a un an à la même époque. C'est Fabien Deneuillon. Fabien, bonsoir.
Salut Philippe.
Ça va?
Ouais, ça va extrêmement bien. Je suis ravi d'être avec toi et avec vous ce soir. Et ça va être un excellent moment. En plus, on va parler d'un vrai sport pour une fois. C'est cool.
Ouais. Donc la société YouGolf, hein, c'est ça, Fabien?
Tout à fait. YouGolf et Blue Green.
Oui, alors on présentera un petit peu les sociétés. Et puis, il est directeur du centre de Jardy, golf, tennis et sport équestre aussi peut-être. C'est notre ami donc Régis Viateur. Bonsoir Régis.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ouais, Jardy, hein.
Jardy, mais alors du golf, du tennis et du
c'est juste
à côté
du restaurant. Voilà, c'est déjà ça. Hein. Oui. Il paraît qu'on mange toujours très bien dans les golfs. Voilà. Et puis je vais saluer celle qu'on a entendue hier. Elle n'arrête pas de travailler. Hein. Donc hier, à Mon Paris Santé, elle nous a concocté un beau journal des sports. Donc ce soir, c'est Laura. Bonsoir Laura.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ça va, il y a eu un beau week-end de sport. Hein.
Oui, ben on aura mécanique. L'occasion d'y revenir.
Voilà, c'est ça. Très bien. Alors messieurs, d'abord Fabien, itinéraire à travers le foot, Régis à travers la voile. Comment ça arrive, cette passion pour le golf?
Oula, mon Dieu. Ça arrive alors complètement par hasard.
Voilà, comme souvent.
Ouais, c'est vrai que j'étais destiné à une carrière de footballeur professionnel. Ouais. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire maintenant, une malformation cardiaque m'a contraint d'arrêter le foot et de ne pas rentrer au centre de formation de Nantes, où j'ai laissé mes camarades De Sailly, Guyot, Ziani, eux aller au bout de leurs rêves, et pour certains, sacré rêve.
Quelque part, il y a des petits regrets. Même si on a toujours tout fait, mais enfin bon, là après, alors, c'est le destin, quoi.
Alors déjà, je vis jamais avec des regrets.
C'est bien, Fabien.
Mais s'il y a un moment, je dois l'avouer, c'est que quand on a été champion du monde en 98, évidemment, j'étais extrêmement heureux, mais une fois que le match est fini, il y a eu cette effervescence, je me suis dit, c'était dans un golf, on était beaucoup, on avait installé des télés, et là, c'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis dit, je devrais peut-être être là. Mais ça a duré.
Oui, une fraction de seconde.
Et puis le golf est tellement extraordinaire, m'a permis de faire tellement de choses dans ma vie, de rencontrer tellement de gens différents, mais vraiment différents, que. Alors non, j'ai strictement aucun regret. C'est la vie. Moi, je crois beaucoup au destin, en revanche. Et je pense que ma ligne n'était pas tracée dans le foot, mais qu'elle était tracée dans le golf. Mmh. Et j'en suis extrêmement ravi.
Donc après cette malformation au niveau du foot, on se tourne naturellement par le golf, ou c'est un petit peu comme ça par hasard, ou on fait un sport intermédiaire, puis après on en vient au golf?
Alors, c'est...
Parce que c'est souvent des sports de reconversion. Hein.
Ta question est extrêmement pertinente, parce que quand on a 13 ans et qu'on fait du foot tous les jours et qu'on rêve foot, et qu'on te dit, ça y est, c'est fini, tu ne pourras plus jouer... mon père à l'époque travaillait au FC Nantes et il vendait de la publicité, vous savez, les pubs autour du stade, et il avait un nouveau client qui avait un bowling, et je suis parti jouer au bowling.
Pourquoi? Alors, pas
autant vous dire qu'après 6 mois je me suis copieusement ennuyé, et totalement par hasard, en lisant un Figaro magazine, j'ai vu Trophée Lancôme. C'était assez sympa. Je feuilletais, et le lendemain, c'était au début des vacances, mes grands-parents étaient là, et j'ai dit à mon grand-père, écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu m'amènes au golf, j'aimerais essayer. Et donc j'avais 13 ans, et je suis allé ce fameux samedi essayer le golf, Et puis voilà. Et quelques décennies plus tard, ça ne m'a jamais quitté. Et ce qui est étonnant, quelque part, c'est que cette passion est totalement intacte.
Mais pas que ça fait ça à tout le monde. Tous ceux qui découvrent ce sport, pour beaucoup, par reconversion, il paraît que la passion reste toujours aussi forte.
Ouais, parce que ça me semble... Ouais. Alors, en fait, c'est très drôle, parce que l'image du golf, quand on ne connaît pas, c'est des riches, c'est des vieux, ça a une image totalement fausse. Et oui, c'est passionnant, mais parce qu'il y a tellement d'éléments. On est dans la nature, on peut se promener, on peut jouer au golf en loisir totalement, on peut jouer en compétition, il y a un resto, je vous conseille d'ailleurs, tu en as parlé, celui de Jardy qui est excellent, tu rencontres des gens, tout type de personnes, tu te prends vite au jeu parce que c'est addictif de sentir... Très sincèrement, quand on tape la balle au milieu du club, je ne connais pas, moi personnellement, une autre sensation que celle-là. Je mettrais peut-être une, et Régis pourrait en parler, parce que la voile, il y a ce côté...
Bah lui, où,
et
ben, aussi,
et moi, c'est le surf.
Ah oui, le surf.
Quand tu montes sur ta planche et que tu sens que la vague te prend et que tu glisses, ben, c'est exactement la même sensation. Et c'est tellement incroyable. Et ben, quand on l'a fait une fois, on veut la refaire. Bah, et quand on n'y arrive pas, ben, on veut arriver à la refaire.
On a reçu un des responsables du surf sur Paris, puisque il y a des vagues de surf dans le 15e, donc on peut aller s'initier, il n'y a aucun problème.
Mais c'est canon, canon. C'est comme les vagues de bouchons à Paris, en fait.
Alors Fabien, lui vient du foot, mais Régis, itinéraire et passage par la voile.
Eh oui, j'ai eu un passage en sportif sur la partie compétition, loisirs, découverte et pratique de tous les...
De la voile.
De tous les sports, de tous les niveaux.
Mais c'est un champion.
Non,
il est modeste.
Il est modeste, non, mais je sais bien.
Non, mais
il a été champion de voile.
Le monsieur qui est là,
je sais bien, champion du monde.
Bien sûr. Peu de gens ont été champions du monde. Double champion du monde. Triple champion du monde.
Donc voilà. Allez, vas-y.
Triple champion du monde, oui, c'était à l'occasion de plusieurs rencontres. Et puis, après avoir travaillé sur les bases de loisirs sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Moussou-Moussou, au boucle de Seine, du côté de Mont-la-Jolie. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir me déplacer sur plusieurs plans d'eau. Et l'avantage d'être sur Paris, c'est qu'en fait, rapidement, on était en Méditerranée, en Bretagne, dans le sud-ouest, sur le Havre. Donc on s'est beaucoup déplacé, beaucoup de championnats pendant une quinzaine d'années. Et puis en même temps, c'était mon métier, donner des cours de voile, faire découvrir l'activité. Donc j'ai allié sport et loisirs et sur le haut niveau,
Oui, et puis un jour, comment on découvre le golf? Comment on passe de la voile au golf?
En fait, j'ai été pendant une quinzaine d'années sur la direction sur les activités de la base de Saint-Quentin.
Donc c'est là qu'on fait un peu de golf, un peu de tennis avec de la voile. Voilà.
J'ai découvert toutes les activités. Ouais. Et puis à ce moment-là, le département des Yvelines m'a proposé une direction, la direction de l'île de loisirs de Moisson-Bousseau, au bout de Seine. Et j'ai dit oui. Et 6 mois après, j'étais à la direction. Et puis en arrivant là-bas, j'ai découvert qu'il y avait un golf. Voilà. Et donc... Voilà. J'ai associé une vingtaine d'activités, dont le golf. Donc le soir, pendant la semaine, on a mis en place des entraînements avec l'équipe du golf. Et 6 mois après, on faisait la Coupe des jardiniers pour faire découvrir, faire pratiquer aussi, déjà ceux qui travaillent dans un golf, différents métiers, parce qu'on va retrouver des jardiniers, de la restauration, de l'accueil, de la commercialisation, différents corps de métiers. Et on s'est retrouvés une centaine. Et donc on a mis en place cette Coupe des jardiniers. Et l'objectif numéro 1, c'était de terminer. Voilà. Mm-hmm. C'était pas de gagner, mais c'était de terminer. Voilà.
Et aujourd'hui, le golf est non seulement devenu un métier, mais aussi une véritable passion.
Alors depuis, à peu près 10 ans, j'ai pris donc la direction du golf du Haradjardi, qui est une propriété du département des Hauts-de-Seine, et qu'on gère avec YouGolf et le groupe Forestil, l'Aqua Boulevard. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'ouvrir au plus grand nombre la pratique du golf à partir de 4 ans. Et donc, on met en place des initiations, on met en place des tout niveaux. On a là, à peu près, à date, on est à peu près 500 nouveaux golfeurs depuis le 1er janvier. Et puis, ça draine à peu près 1700 licenciés en golf et 1000 en tennis. Mm-hmm. Voilà, donc on associe le golf
et le
tennis.
Oui, parce qu'il y a golf-tennis, et je parlais de... Voilà. C'est juste à côté du Haras, où il y a les sports équestres.
Voilà, il y a 70 hectares au total. Et donc, le golf, le tennis et la restauration représentent 50% de la superficie. Et donc, ça nous permet aussi de monter et de mettre en place un certain nombre de projets.
Oui,
et
on va en parler. Ouais, ouais. Alors, Fabien, après, il y a l'arrivée sur YouGolf, fatalement. On peut dire ce que YouGolf ?
bien sûr, si tu permets, je fais une toute petite digression pour... Je pense aussi que quand tu as pratiqué le haut niveau, et Régis, qui est un excellent directeur, je ne le dis pas parce qu'il est à côté de moi, parce que je le pense, mais c'est un excellent directeur parce que je pense que le côté haut niveau de perfectionnisme, de compétition, on a besoin d'être innovant, on a besoin de regarder, on a besoin d'observer. Et c'est des qualités. D'ailleurs, j'invite tout le monde, tous les auditeurs, à un moment donné, la preuve, c'est que nous, on est arrivés dans le golf totalement par hasard. Et je crois que ça peut créer des métiers sur le terrain, en dehors du terrain, à l'accueil, enseigner, diriger. Et que quand on aime le sport, quand on a ce goût-là, la preuve, c'est qu'on... on y arrive et que ça nous passionne. Je vais revenir donc sur...
YouGolf.
Alors, sur YouGolf. Alors, c'est YouGolf et Bluegreen. Pourquoi c'est YouGolf et Bluegreen ? Puisque, et maintenant depuis un an et demi, donc avant c'est un an et demi, il y avait deux sociétés qui avaient strictement le même ADN, c'est-à-dire de mettre le plus de monde au golf, qui se partageaient une cinquantaine de golfs en gestion. Et il y a un an et demi... le groupe Duval, puisque YouGolf appartient au groupe Duval, a racheté Bluegreen, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux entités, mais nous sommes la même société.
Un même groupe, quoi.
Voilà, il y a plus de 1400 collaborateurs. Il y a des gens passionnés. Et moi, je trouve ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand on... Donc moi, je viens de YouGolf, depuis 10 ans, et des gens qui étaient nos concurrents, il faut le dire, des gens qui étaient nos concurrents, qui aujourd'hui, nous sommes avec eux, c'est assez passionnant parce que leur façon de voir les choses, leur façon de penser, les process, et quand les choses arrivent à se lier, on prend que le bon ou le très bon d'une part des collaboratrices et des collaborateurs, mais également des stratégies, des choses mises en place. Donc là, on veut accélérer et Régis, c'est une sorte de pionnier aussi dans le golf parce qu'il a cette faculté, et on doit le dupliquer, de mettre tout le monde. Mais quand on dit tout le monde au golf, c'est tout le monde au golf. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, un jour, Régis m'appelle, il me dit « Fabien, est-ce que tu peux venir donner des leçons ?» Et je dis oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, je donnais des leçons, et c'est top d'ailleurs. Mm-hmm. Et j'avais encadré une classe pendant quelques temps. Et puis après, j'ai donné des cours à des gens qui avaient des problèmes moteurs, des problèmes... C'est fascinant, parce que en fait, quand on est sur un tapis de golf, ou quand on est sur le tapis de practice, ou quand on est sur... Mais on est tous égaux, on est... Mm-hmm. Tous égaux, il y a cette balle, il y a ce club, et on cherche à la pousser tant bien que mal, et parfois bien devant soi pour la mettre dans un trou. Et la vocation de nos deux sociétés, nos deux groupes aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est d'ouvrir ce sport qui est méconnu, qui a une image galvaudée, et de montrer que c'est fun, c'est hyper convivial. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense.
Oui, alors, ça représente combien de golf au total en France et certains sur l'étranger hein.
Alors, ça évolue un peu tous les jours.
Oui, non, mais...
un peu plus de 120.
Allez, 120.
Ouais. Alors, un peu plus de 120, 97 en France et les autres à l'étranger, en Afrique, en Hollande, en Allemagne, en Espagne, en Nouvelle-Calédonie. On a eu une expérience au Brésil. Oui, clairement. En plus, on a un modèle, nous, qui est assez génial. Les plus de 500 nouveaux joueurs et joueuses qui sont venus cette année à Jarny, par exemple, on est dans un mode de tout inclus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend ce produit, on a une heure de cours collective par jour. On a l'accès au parcours quand les enseignants et enseignantes estiment qu'on va pouvoir y aller. On a un kit de club et avec un prix qui est mais le prix d'une salle de sport j'ai envie de dire basique.
Mais tout le monde est sur le même tarif.
Oui, bien sûr.
Qu'on soit à Jardy ou qu'on aille je sais pas moi dans les Landes, c'est pareil.
Ouais, on n'en a pas dans les Landes. Globalement, c'est le.
Ouais. Ça joue les à 15 euros.
La formule est la même. Oui. Et le prix, il y a une quinzaine d'euros, on va dire, entre la province et Paris.
Alors, justement, parmi les initiatives que vous faites, Régis, vous ouvrez, on l'a dit, on en a parlé, au handicap, mais aussi au scolaire.
Alors, on accueille différents publics, les scolaires, du sport santé également.
Oui.
Alors, le scolaire, on commence à partir de CM1, CM2. Et donc pour toutes les communes, aussi bien du 92, 78.
Donc ils vous appellent, ils viennent,
Ils viennent et on met en place des cycles et on va tout de suite sur le parcours. C'est-à-dire que notre idée sur le principe du groupe YouGolf, c'est d'aller sur la première séance, tout de suite sur le parcours, marcher sur les greens. Et ça, on en fait notre cheval de bataille parce que pour pouvoir se rendre compte tout de suite de l'activité et de rentrer tout de suite dans cette activité. Voilà. Et après, on accueille également des personnes qui partent en vacances.
Oui,
on a différents dispositifs. Dans le 92, on appelle ça le dispositif vacances sport. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent pratiquer 2 heures de golf le matin, 2 heures l'après-midi, et puis entre midi et deux, ils restent sur le site pour déjeuner. Nous avons des universitaires. On reçoit l'université de Saint-Quentin avec des UE, par exemple, tous les jeudis après-midi pour les étudiants. Ça rentre dans leur activité au niveau de l'université. Nous avons aussi, juste à la sortie du Covid, signé des conventions avec plusieurs établissements. Parce que le golf a fait partie des activités tout de suite ouvertes juste après. Et c'était la première année, mais surtout, on a réussi à les fidéliser. C'est-à-dire qu'on re-signe chaque année des différentes conventions pour les collèges, les lycées, entre autres celui de Bedon, le lycée-collège de Hoche de Versailles. On va avoir différents établissements qui vont venir pratiquer régulièrement sur le site. Et le 7 décembre, entre autres, pour les scolaires, on a avec le rectorat, on a le recteur qui vient l'après-midi, on met en avant nos métiers de jardinier, jardinier, moniteur de golf, moniteur de tennis, maréchalerie. Donc on a fait en fait activité golf, tennis, restauration et équitation pour découvrir ces métiers. L'activité sera encadrée par des sections, par exemple sécurité. Ils interviennent sur le cross, ils sont intervenus mercredi dernier avec l'UNSS. Et donc c'est eux qui s'occupent de la sécurité. On va avoir toute la partie informatique, différentes approches. Voilà, donc on a un volet scolaire. Jusqu'à l'université, du primaire à l'université. Nous avons un volet aussi sport santé. Oui. On est pionnier en France en proposant une activité financée par la CPAM du 92. C'est un appel à projet que nous avons remporté. Et donc, c'est de proposer pour 30 patients par an atteints de maladies longue durée de venir pratiquer le golf.
D'accord.
Et donc, au départ, on pensait aux gens qui allaient se remettre au sport. Et là, depuis cette année, on a aussi ceux qui font du sport et en fait, on leur permet de continuer l'activité sportive.
Donc, tout type de pathologie, de maladie, tout type.
Maladie longue durée. Donc, on va avoir des personnes atteintes de cancer, de diabète, des personnes obèses, des problèmes cardiaques. Là, on va avoir un article justement sur le sport santé avec le professeur Olivier Dubourg d'Ambroise Paré, qui est chef de service cardiologie. Et donc, on est en train de finaliser un article justement sur les bienfaits du sport santé.
Et puis, le sport handicap aussi.
Alors, le handicap, on est centre départemental et au niveau région de France également. Dans chaque département, il y a un golf qui est recensé où on a eu un financement pour acquérir un paragolfeur. C'est-à-dire que ça permet aux personnes en fauteuil roulant de se mettre en position debout. Donc, on fait des portes ouvertes, des forums, on va faire un festival du sport. On va permettre aux personnes qui ne pensaient pas du tout à faire du golf. On était à Garches, qui est malheureusement connu pour les accidentés de la route, par exemple. Et là, on a fait bénéficier avec l'ISPC, l'Institut, justement, sur tout ce qui est sur le développement et l'accès et le numérique. Et donc, on les accueille depuis la rentrée sur du tennis et le golf. Et on met en place le paragolf pour justement donner la possibilité. Et c'est très émouvant parce qu'on y était il y a un mois dans leur porte ouverte, parce que justement, ils font découvrir aussi toute l'activité qu'ils font. Et donc, on a mis une personne en position debout, qui était en fauteuil roulant et qui faisait une autre discipline, une autre sportive aussi. Et donc il y avait tout le corps médical autour de nous. Parce que c'était une situation très positive. Et avec un message très positif. Donc on intervient aussi dans ces domaines-là. Et puis dans le domaine aussi sportif. On a des tournois de tennis. On en organise un pour Noël, où on a à peu près 400 inscrits sur le tournoi, sur la partie tennis, et sur le tournoi interne. En fait, on essaye d'animer au maximum. Et c'est cette vision apportée justement dans un golf, où un golf est ouvert. Et nous, on a ouvert très, très grand les portes. Alors ça, c'est peut-être ma vision de
Voileux. Non, mais c'est bien,
ouais, ma vision de Voileux à 360, justement, ouais. où voilà, on a pris un cap, on a pris une décision et d'ouvrir. Voilà, et cette décision, c'était de rester sur cette position-là. Donc ça chamboule un petit peu les pratiques du golfeur ou la pratique du tennis. Mais c'est de dire, voilà, je ne suis pas chez moi, vous n'êtes pas chez vous, mais ici, le site, il est ouvert à tous.
Oui, et est-ce qu'il y a des, je sais pas, des choses qu'on souhaiterait encore faire dans d'autres domaines? Je ne sais pas, ça pourrait être par exemple, allez, le sport carcéral, par exemple.
Alors, ça va être une des pistes.
Oui.
Le tennis aussi, le paratennis.
Oui.
Hein, on va être aussi, parce qu'on va associer le comité des Hauts-de-Seine de tennis, comme on l'a fait pour le golf. On a été soutenu aussi par le milieu fédéral, hein, dans le cadre du dispositif. Et YouGolf également, et la fédération donc, qui nous a aidés sur la mise en place. Et là, je vais m'orienter en 2024 avec l'équipe, hein, quand je dis c'est toute l'équipe, pour mettre en place le paratennis. La notion prison, carcérale, on est en discussion en interne, parce que c'est aussi donner envie et des vocations en interne hein, sur des sujets. Là, aujourd'hui, on était au CIG. Donc, Fabien nous avait donné les coordonnées du CIG. Donc, le centre interdépartemental de gestion pour les fonctionnaires à Pantin, pour voilà, des fonctionnaires qui vont rentrer dans la, enfin, se préparer pour la retraite. Et quelque part, je pratique un petit peu, mais il vaut mieux commencer très tôt le golf. Il ne faut pas attendre la retraite, c'est l'image qu'a le golf.
Oui, oui, oui.
Et vaut mieux commencer plus tôt possible, parce que le nombre de personnes, des profs de sport qu'on reçoit du 78, du 92, qui se disent « Mais pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi ça n'a pas été mon sport ?» Voilà. Et de ne pas attendre la retraite. Voilà, donc aujourd'hui, on était avec les futurs fonctionnaires, enfin les futurs retraités de la fonction publique territoriale, où justement j'ai cette culture de la fonction publique territoriale, parce que j'étais au départ fonctionnaire territorial, où on est titulaire de son grade, mais pas de sa fonction. Et ça, je pense que ça, c'est très important, cette notion-là, pour justement être très ouvert, en disant, voilà, peu importe la fonction, mais on va pouvoir dérouler une carrière ou un fonctionnement. Ou des idées. Voilà.
Et puis Fabien, il faut le dire, vous le répétez, on vous voit beaucoup d'ailleurs le dire sur les réseaux sociaux, le golf, c'est un sport qui est ouvert à toutes et à tous. Hein. Quel que soit son âge, quel que soit son gabarit, sa corpulence.
Ah mais, mais totalement. Et j'ai envie de dire aussi, ce que disait Régis, c'est que souvent les gens qu'on croise, et on en a encore croisé là, la semaine dernière, ça passe tellement vite. Mais pourquoi j'ai pas, comme le disait Eric, pourquoi j'ai pas démarré plus tôt? Et puis c'est surtout le schéma que le golf est aussi inabordable pour les gens. C'est-à-dire que ça coûterait, je mets ça au conditionnel.
Alors justement, ça coûte combien?
Mais ça coûte aujourd'hui d'avoir le produit là, qui s'appelle All For You, qui inclut les cours, le kit de club, l'accès au parcours, ça coûte 80 euros par mois. Donc, c'est une pratique aujourd'hui, quand t'es parisien ou même tu veux aller dans une salle de sport, c'est ce prix-là. Mais au-delà du prix, souvent ce qu'on oublie, c'est que quand on... Alors, on va me dire, ouais, mais justement, c'est que quand on vient au golf, on peut prendre son temps, on peut rester un bon moment. On peut s'amuser parce qu'il y a différents thèmes, le parcours, ce qu'on appelle le petit jeu autour du green. Donc en fait, on passe un vrai bon moment. Et ce qui est aussi génial, et c'est le seul sport que je connaisse comme ça, c'est que si demain, ou Laura ou toi, vous venez jouer, on va pouvoir faire un parcours. Et vous allez
adapter.
Et allez jouer votre parcours.
Oui.
Parce qu'il y a une formule de jeu qui permet.
Oui.
Évidemment, moi, c'est mon métier, donc il y a de fortes chances que je l'envoie un peu plus loin, ou parfois pas toujours droit, mais vous allez taper votre coup jusqu'à mettre la balle dans le trou. Je ne connais pas d'autres sports. Si demain, moi, je vais faire de la voile avec Régis, s'il me laisse le truc, je pense qu'on est dans la merde.
C'est pas dit qu'avant.
Mais si tu vas au ski, tu vas au ski, tu skis et tu n'as pas le même niveau, tu passes pas une bonne journée.
Ah non, c'est sûr.
Si demain tu vas jouer au tennis, moi je suis pas un bon joueur de tennis, et j'ai des potes qui me disent, je dis mais les gars, moi vous allez vous ennuyer avec moi. Le golf, c'est impossible. Donc c'est pour ça que quel que soit l'âge, on a des abonnés qui ont 97 ans.
Oui.
Et Régis le disait, on démarre à 4 ans.
Mmh. Et il y a plus
tout le monde peut jouer ensemble.
Ouais.
Le golf, c'est le sport de la famille,
vraiment,
de la famille. de la famille. C'est-à-dire que le petit-fils avec la grand-mère, le grand-père, la petite-fille, les parents, tout le monde peut jouer ensemble.
Et est-ce qu'on le débute de plus en plus jeune? Parce que c'est vrai que ça a cette image aussi, on en parlait tout à l'heure, d'un sport de reconversion, d'un sport pour anciens. De plus en plus de jeunes, filles et garçons, le pratiquent très tôt.
Oui, de plus en plus. Hein. Oui. Nous, par exemple, là, on a des sections, donc baby golf et baby tennis. Hein. Et ah donc, oui, on réserve des créneaux pour les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans. Ce sont des séances d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça, toute l'année. Et c'est aussi une activité qu'on peut, un sport qu'on peut pratiquer toute l'année. C'est-à-dire qu'on a des équipements sur la plupart des golfs, des espaces qui sont couverts. On peut apporter d'autres thèmes aussi. Là, au niveau du golf, on est très, très engagé aujourd'hui sur la transition écologique, sur la gestion de l'eau, sur la biodiversité. Parce que aujourd'hui, on accueille une classe, on leur fait faire du golf. Mais en même temps, pendant une demi-heure, on va les emmener sur le potager. Là, nous, on a gagné. Là, on a eu le coup de cœur de Landestini sur la Coupe de France des potagers. Et il faut savoir que c'est un championnat sur lequel on a été mis en place par notre directeur général, Pierre Noulen, qui a dit, voilà, tous mes golfs doivent s'inscrire à la Coupe de France des potagers. Donc, on a concouru. Certains, on était jusqu'au bout. On a mis en place, on a accueilli des classes aussi grâce à ce potager, des poules. Vous avez retrouvé sur des golfs, souvent des poules, des moutons. Il y a des directeurs qui... ont une mission ou des fonctions d'éleveurs pour pouvoir justement limiter les tontes, limiter, mieux gérer les espaces, avoir un regard en fait avec cet engagement. Et au niveau du groupe, au niveau des golfs et même au niveau de la Fédération française de golf, aujourd'hui nous avons une vice-présidente en charge de la transition écologique avec qui on échange très régulièrement avec des labels biodiversité avec différents niveaux. Donc, en fait, il y a une ouverture qui est complète au niveau de la structure. Mais au niveau de Jardy, on a le golf éco-durable et le label EVE. Donc, le label EVE, c'est le label qu'on retrouve dans les mairies où on utilise zéro phyto. Donc, c'est 100% organique. Ça ne veut pas dire qu'on ne met plus rien, mais ça veut dire que tous les produits qu'on met, ils sont labellisés, validés, certifiés. Ils ont le label agriculture biologique. Mmh. Et on est dans cette démarche-là. Donc, avec les syndicats, avec les associations, avec les centres de formation. Bah, c'est aussi nouveau, donc on s'engage aussi auprès des élèves. C'est pour ça qu'on est on est tourné vers la formation, pour pouvoir faire découvrir tous nos métiers et et ouvrir au plus grand nombre. Alors les tarifs, en effet, nous on commence même à partir de 45 euros par mois pour les moins de 40 ans. Alors pourquoi moins, pourquoi plus? Parce qu'en fait, on veut aussi leur donner un pouvoir d'achat.
L'ouvrir davantage,
mmh. Participer au pouvoir d'achat, donner la possibilité de venir jouer, de pratiquer un sport tous les jours. Nous, on est devenu un lieu de pratique, un lieu où entre copains, on se retrouve le soir. On a des golfs où il y a toute une partie numérique mise en place avec des practices animées, comme on trouve des bowling animés. Bah, là, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on est vraiment dans cette dynamique-là de se dire, voilà, il y a le golfeur, il faut un golf pour le golfeur pur. Celui qui pratique, qui a pratiqué pendant des années, et il y a des nouveaux golfeurs, il y a des gens de 30, 35 ans.
Il peut y avoir des soirées événementielles aussi, ou des séminaires d'entreprise, c'est bien connu ça.
Tout à fait. Dans tous les golfs, il y a des soirées, on appelle ça des afters. Alors comment ça se passe? C'est qu'en fait, au départ, on pense à des nouveaux, comme toi, Philippe, on va te dire de venir un soir, une initiation de 2 heures. Puis derrière, en effet, il y a une petite soirée, on passe un bon moment.
Tu vas venir pour la soirée.
Ouais, c'est ça, oui.
Alors, c'est comme en voile, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. On voit un petit peu ces soirées-là, mais on sait quand on part. Et en même temps, il y a une compétition, c'est convivial, il y a des remises des prix. Mmh. Il y a des initiations, donc on fait des initiations.
Gratuites.
Gratuites. Ouais. Donc quasiment tous les golfs en France aujourd'hui qui sont ouverts dans cette dynamique-là, à proposer des initiations gratuites dans tous les secteurs d'activité. Quoi.
D'accord.
Simplement ajouter, c'est que nous, tu en as parlé tout à l'heure, Régis, on a eu un accélérateur. Mais clairement, un accélérateur, ça a été le Covid.
Oui, alors justement, j'avais posé la question, est-ce que le Covid, vous vous en êtes remis? Parce que je sais que ça vous a enlevé du monde. Est-ce que finalement, vous avez retrouvé tous vos pratiquantes et pratiquants?
Alors, nous seulement les a retrouvés, on les a augmentés. Mais c'est surtout que pendant le Covid, les gens étaient ou sur la télé ou sur leur téléphone. Et sur le téléphone, ils étaient ou sur Facebook ou sur Instagram. Et est apparu beaucoup, beaucoup de stories, de posts où on voyait des golfeurs et des golfeuses faire ce qu'on appelle des tricks, c'est-à-dire des jonglages, des trucs assez rigolos. Et tout d'un coup, l'image du golf a totalement changé. Et en plus, à la sortie du Covid, on a été les seuls avec le surf autorisé, parce que c'était à l'extérieur, bon, avec les mesures évidemment qui s'imposaient, mais à être pratiqué. Donc là, on a toute une nouvelle génération, donc des gens plus jeunes, des gens qui, un peu moins jeunes, mais qui allaient à la salle et qui se sont dit « mais je ne peux plus faire, donc je vais jouer au golf ». Alors, il est vrai, on en a perdu, parce que ces gens-là sont retournés dans leur sport de prédilection, mais ils ont touché au golf, donc ils reviendront au golf. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, le golf, tous les journalistes jouent au golf. Tous les gens people et sportifs.
C'est vrai qu'on en beaucoup, on en connaît
bien
beaucoup.
Sûr, ils jouent tous au golf. Ouais. Et moi, j'ai connu une période où il ne fallait surtout pas le dire. C'est-à-dire que le journaliste, le people, le machin qui disait qu'il jouait, mais il ne disait rien. En revanche, quand on l'invitait à une de nos manifestations, c'était le premier ou la première à vouloir venir. Aujourd'hui, on voit, grâce au réseau et grâce au changement total de l'image du golf, qu'ils sont contents de poster une story, de poster et d'en parler. On voit aujourd'hui que le golf, moi je participe à d'autres médias, il y a quelques années, mais on ne m'aurait jamais invité à faire une émission où...
C'est démocratisé, où, en fait, le golf.
Oui, mais alors, ça l'est, mais ça ne l'est pas assez. Parce que moi qui habite Paris, quand je discute, parce que je ne suis pas très timide de nature, donc si je suis au restaurant, je vais discuter avec mes voisins et voisines, on me demande ce que je fais, je dis que je suis dans le golf. Ah ouais, mais et à chaque fois, ah ouais, mais c'est cher. Et on doit combattre ça. Et ce que nous, on fait dans le groupe... Et ce que fait Régis, puisqu'il en parle, mais évidemment, on doit le multiplier. Et c'est évident qu'à un moment donné, bon, déjà, cette image changera. Parce que quand on initie les gens gratuitement, toutes les semaines, voire tous les jours, quand on propose un produit pour les très jeunes, les moins jeunes, enfin les moins jeunes, les... on va dire de 20 à 40 ans et au-dessus de 40 ans, qui est totalement accessible, clairement, ça va faire venir du monde. Et puis on anime énormément, c'est pas qu'en soirée, mais c'est l'ambiance dans nos golfs. Il y a la musique dans les cours, c'est-à-dire que tu prends un cours, t'as la musique, ça n'existait pas.
On peut faire du golf avec le baladeur,
mais
là, et en musique.
Bien sûr, mais là, la musique, il y a une baffle, enfin le speaker, là. D'accord. Et tu tapes en musique.
Comme pour le surf, quoi.
Mais, pareil. Oui, l'image, clairement, change totalement. Et on va faire en sorte qu'elle change encore plus.
Très bien. Allez, la pause musicale. Diane Tell, Si j'étais un homme. Ensuite, on aura Bernard Delattre au téléphone, le journal des sports de Laura. Et puis, on continuera naturellement à vous parler golf. Et ce, jusqu'au foot, au point foot vers 20h.
Je suis femme, mais quand on est femme, on achète.
que pour entendre ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis folle.
Allez, on va dans un endroit que vous connaissez bien. Il y a le golf national qui n'est pas très loin. C'est Élancourt avec notre ami Bernard Delattre. Bernard, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Oui, alors Bernard, donc le week-end du 9 et 10 décembre, hein, il y a un énorme salon du livre consacré au domaine du sport.
Tout à fait Philippe, merci d'en parler. Ouais, bah donc, c'est la 6e édition de ce salon du livre qui est organisé par les Amis du Passé d'Élancourt avec l'aide de la mairie d'Élancourt, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout ça c'est très olympique. Hein. Élancourt accueillera l'épreuve olympique du vélo de TT de descente à la colline de la Revanche, le vélodrome national, bien sûr, toutes les épreuves sur piste, plus le BMX et aussi le golf national. Donc le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui comprend Élancourt, est très impacté par les Jeux. Et depuis plus d'un an, c'est l'effervescence. Et donc ce salon, pour la première fois, nous faisons au Grand Théâtre du Prisme. Et le thème principal, c'est la littérature et les sports. Jean Giraudoux disait déjà, le sport est un art, le sport est une culture, c'est l'art par lequel l'humain se libère de l'humain.
Alors justement, le parrain, bah, c'est quelqu'un, on parle de golf ce soir, c'est quelqu'un qui adore le golf, hein, c'est Nelson Montfort.
Ah ouais, Nelson Montfort, oui, qui est aussi passionné d'athlétisme, oui, de patinage artistique. Il a fait un livre qui s'appelle Mémoire olympique, où il parle de. Enfin, il livre beaucoup d'anecdotes et de réflexions aussi sur l'évolution du sport, sur 16 Jeux olympiques. Il a 8 d'été et 8 d'hiver. Et il parle notamment de Jesse Owens, là, qui a bouleversé tous les plans d'Hitler aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Il a ridiculisé toutes les théories racistes du nazisme, en gagnant 4 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, et sur en longueur. Et le samedi soir, 9 décembre, on fait toujours un partenariat avec le cinéma des 7 mars, la veille du salon, et le film, ça sera La couleur de la victoire sur Jesse Owens, un film passionnant. J'espère qu'on aura beaucoup de jeunes, hein, d'athlètes, du sport, du rugby, tout ça. Et avant le 10 jours avant le salon du 10 décembre, dès le 30 novembre, nous avons l'exposition de Philippe Lorrain, qui est un passionné de sport. C'est un grand illustrateur, peintre, qui travaille beaucoup avec Pierre Lagrue. Il a aussi illustré des livres de Nelson Montfort, notamment celui sur Jean Ferrat, parce que Philippe Lorrain ne fait pas que les sports. Mais en sport, il a fait cycliste de légende, rugbyman de légende, footballeur de légende. Enfin, il a des portraits fantastiques au pastel. C'est des vrais posters. Quand on était ados, on avait tous le poster de nos champions dans notre chambre. Ben, je pense que avec chaque livre vendu, il donnera un poster. Je pense que ça va cartonner, quoi. Mmh. Et donc, Philippe Lorrain va exposer du 30 novembre au 10 décembre, donc pendant le salon, les 30 portraits des rugbymen des équipes de France.
Oui, et pour cause. Et hein.
Puis, comment oui.
Et pour cause, c'était l'année. Hein. Oui.
Ah oui, ben là, on s'est fait encore voler par les Anglais, comme d'habitude, tous les 4 ans. Mais enfin, on l'aura, cette Coupe du Monde, un jour. On a déjà perdu 3 finales, dont une d'un point. Un jour, on va le gagner, ce mondial de rugby. Mmh. Mais je pense que ça va faire comme la voile. Une fois qu'on aura brisé le plafond de verre, ce qu'a fait Tabarly, ben après, on gagnera tout le temps. Alors, les Britanniques le savent, et c'est pour ça qu'ils nous brillent.
Alors, Bernard, naturellement, le rugby sera un thème important. On parlera beaucoup d'Olympisme et il y aura quelques confrères qu'on connaît bien. Ils sont venus à ce micro, hein, notamment nos amis.
Daniel Potras.
Voilà, Daniel Potras et Étienne Bonamy aussi, oui.
Étienne Bonamy, ouais, qui a fait un roman fantastique sur le Tour de France en 1941 ou 42, en pleine occupation. Les Allemands, les nazis ont obligé à faire un Tour de France, puis ça a été une catastrophe. Étienne Bonamy, donc, qui est journaliste sportif depuis longtemps, qui habite dans les Yvelines, a eu l'idée d'en faire un roman, tout ça, en racontant les faits historiques. Il avait étudié tout ça, et il a fait un roman sans doute passionnant, quoi. En pleine occupation, les nazis qui voulaient faire un Tour de France. Parce que les gens, ils avaient autre chose à penser, hein. Ils avaient déjà à peine de quoi manger. Enfin, il raconte tout ça, et c'est vraiment une très bonne idée. Ce livre est édité aux éditions et En Exergue, qui font pas mal sur le sport. Hein.
Oui. Ouais. Alors, ça représentera combien de journalistes et d'écrivains sportifs présents ce dimanche 10 décembre?
Il y en aura environ 25. Oui. Au total, on aura 75 auteurs. Alors, c'est réparti. 25 sur le sport. Hein.
Oui.
Il y aura aussi Madeleine Abassad, hein, qui a fait un très beau livre sur une étude sur Václav Nijinsky, là, le grand danseur qu'on appelait le dieu de la danse,
oui,
et qui faisait des bons énormes. Je pense qu'il aurait pu être champion olympique ou pas loin de son hauteur ou de son longueur. Il avait une détente, il avait vraiment un travail d'athlète. Donc elle analyse tout son parcours. On a aussi le livre de Didier Fischer, un historien, maire de Coignières, commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a fait le Tour de France, mais au niveau historique, depuis une saga populaire, depuis 1903, il rappelle tous les grands événements du Tour. Et il a la vision de l'historien. Et ce livre vient de sortir. On a aussi un livre qui est un peu plus pessimiste, c'est « Ouragan sur les Jeux » de Jean-Pierre Rey, oui, qui dit enfin toutes les menaces qui pèsent sur les Jeux. Quoi. On voit les problèmes de transport déjà, tout ce qu'il y a, parce que des épreuves auront lieu dans la Seine. Il a bien analysé tout ça. C'est un peu, comment on dit, la Cassandre, le Cassandre de l'opération. Mais enfin, il en faut, c'est ce qui permet de faire évoluer les choses. Et on a, voilà, donc on a environ 25 auteurs sur le sport. Ah ouais, on a aussi Josiane Bost.
Oui, ancienne championne cycliste. Ouais.
Sur route en 1977. Elle a eu un destin magnifique. Cette fille, elle est de la Nièvre, hein, de Bourgogne, ma région natale. Et elle a été postière à vélo, elle était rampailleuse de chaises. Elle était toujours numéro 2 au niveau français. Puis un jour, celle qui était devant, elle a été blessée. Elle a été championne du monde, et voilà, c'est quelque chose qui reste à vie. Et elle a fait un très bon bouquin avec Roger Joigneux, qui est grand journaliste sportif dans la région Centre, très connu dans la région Centre. Ils ont fait ce livre ensemble, et ce sont des amis de Bernard Thévenet, par exemple, qui est de la Nièvre aussi, un grand champion du Tour de France. Et il y a dans ce livre, il y a énormément d'histoires, d'anecdotes, non seulement sur Josiane Bost, mais aussi sur Bernard Thévenet et d'autres champions de Bourgogne. Ça a toujours été une terre de cyclisme, le Morvan avec ses bosses et tout ça, quoi.
Ok, donc Bernard, on va rappeler la journée, le 10 décembre, et puis de 9h à 18h, c'est ça? Et la veille, donc
Le salon ouvert au public de 10h à 18h. 10h à 18h non-stop, entrée libre. Donc il y aura 25 auteurs sur la jeunesse, on aura la souris, la Stilton, là.
Oui.
Et on aura 25 auteurs sur le sport et les 25 auteurs romans, polars, poésie, nouvelles, etc., essais, quoi. Et entrée libre, hein, bien sûr.
Okay.
Un bar sur place. Je pense que ça va être très, très sympa. Et le film sur Jesse Owens, le samedi soir à 20h15 au cinéma des 7 mars, juste en face du théâtre du Prix, entrée à 4,50 €.
D'accord.
Là, il faut que tous les jeunes viennent, parce que c'est vraiment un film.
Et oui, c'est d'actualité.
À tout point de vue. Parce que c'est la lutte contre le racisme. On voit aussi. En 1936, c'était l'apartheid aux États-Unis, donc les Noirs étaient des sous-citoyens, et l'entraîneur qui était un blanc ses copains lui disaient, tu ne vas pas entraîner un noir quand même. Il a dit, si, si, c'est un bon. Il a tenu bon. Et il y a aussi, au niveau pédagogique, comment l'effort, le travail paye en sport toujours. Et aussi le lien qu'il y a entre l'entraîneur et son champion, quoi. C'est vraiment quelque chose de magique, quoi.
OK.
Et c'est vraiment, je crois qu'il y a plein de messages dans ce film. Il faut que les jeunes aillent le voir. C'est très pédagogique.
Très bien. Le rendez-vous est pris. Merci Bernard, en tout cas. Et puis, c'est pas très loin de Paris. Donc, il n'y aura aucun problème pour...
Ouais. Le dimanche matin, voilà. C'est à 20 minutes. Hein.
Très bien.
À 20 bornes, à 30 km.
Très bien.
Mais alors, le matin, ça roule bien. Hein.
Voilà. Ouais. Merci Bernard. Le rendez-vous donc est pris. Et il y a très brièvement le bonjour de Régis Viateur, donc, qui est un de nos invités ce soir. Voilà.
Merci bien.
Voilà.
Merci
voilà.
Philippe.
Merci. À très bientôt. Merci.
Et vive le sport.
Et vive le sport, effectivement. Donc, ne manquez pas ce salon du livre sportif. Et ne manquez pas non plus le journal des sports de Laura, hein, pour ce week-end. Laura, il s'est passé beaucoup de choses, notamment au niveau des sports mécaniques. Hein. C'était la fin des saisons.
Exactement. Max Verstappen s'est de nouveau imposé dimanche en remportant le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est la 19e victoire en 22 Grands Prix décrochée par le Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing, qui est presque assuré maintenant de remporter le titre de champion du monde.
C'est même sûr. Hein.
Ouais, c'est même, oui, c'est... Ouais. C'est acté. À bord de sa Ferrari, le monégasque Charles Leclerc arrive derrière lui et devance le britannique George Russell du constructeur Mercedes. Et puis Francesco Bagnaia de l'équipe Ducati, remporte le Grand Prix de Valence ce dimanche et décroche un deuxième titre de champion du monde. Malgré le retour de son rival George Martin qui le talonnait de peu, l'Italien s'impose à nouveau. Le Français Johan Zarco de Ducati termine deuxième, tandis que son compatriote de l'équipe Yamaha, Fabio Quartararo, finit à la 11e place.
Ouais, ça c'était pour la moto. Hein.
C'est ouais. Ça, côté moto. Ouais. Et pour le tennis, l'Italie remporte la Coupe Davis pour la deuxième fois de son histoire ce dimanche à Malaga, emmenée par l'Italien Jannik Sinner qui a gagné ses 5 matchs, 2 en double, 3 en simple. L'Italie s'impose face à l'Australie 2-0. Avec cette victoire, l'Italie se hisse au niveau de la Croatie avec 2 victoires, tandis que les Australiens affichent 28 victoires au compteur. Pour cette 8e journée du top 14 de rugby, le Racing 92 s'impose 32-10 face à La Rochelle et conserve sa première place. Plus difficile du côté du Stade français qui descend de 2 places, laissant passer devant lui l'équipe de Pau après avoir perdu contre celle-ci samedi 6-30. Et puis au terme de cette 13e journée du Betclic Basket, les équipes de Paris et Boulogne-Levallois remportent leur match face aux équipes de Gravelines Dunkerque et Roanne 97-78 et 90-83. Ce qui n'est pas le cas de Nanterre qui offre la victoire à Nancy 71-91. Niveau classement, Paris se situe toujours deuxième derrière Monaco. Nanterre descend à la 6e place et Boulogne-Levallois occupe toujours la dernière place. Et puis côté handball, le PSG l'emporte face à Montpellier hier 31-27 et conserve sa première place. L'équipe de Créteil monte à la 11e place après avoir gagné son match samedi face à Chartres. Pour la Ligue Butagaz Énergie, donc l'équipe féminine, le Paris 92 s'impose 27-24 face à Saint-Amand-les-Eaux et se situe toujours sur les marches du podium à la 4e place. Et 8e journée du Marmara Spike League, l'équipe de Paris échoue samedi face à Poitiers 2-3 mais conserve sa 9e position. Même résultat pour le Plessis Robinson qui perd son match face à Chaumont 0-3 et se situe juste devant Paris à la 8e place du classement provisoire. Du côté de la Ligue A, l'équipe féminine Levallois Paris gagne 3-0 face à Venelle et occupe toujours la première place avec les équipes de Mulhouse et de Vendeuvre.
Voilà, ça c'était pour le volleyball.
Oui, pour le volleyball.
Au volet et on parlait du hand féminin, ça va s'arrêter parce que maintenant il y a des matchs de l'équipe de France et il va y avoir le championnat du monde. Donc on espère que nos filles du hand vont peut-être finir l'année, qui sait, en beauté. Allez, on va finir sur le chapitre du golf, après on aura la partie foot. Hein. C'est vrai que sur Paris, il n'y a pas beaucoup de golf. Hein. Il y a juste dans le 13e un practice hein, du président Norbert Oury. Donc, c'est pas facile toujours pour les gens aussi d'aller se déplacer. Donc,
Ça, c'est la question, ouais. Oui, effectivement. Oui. Hein. Mais en fait, tu soulèves...
Oui.
Je vais raconter une anecdote. On a eu la Ryder Cup en 2018. Oui, toujours resté sur le foot, là.
Oui. En 2018, on était champion du monde aussi la même année.
Et la mairie de Paris, donc avec la société de la Ryder Cup, avait organisé un truc génialissime. devant la mairie, sur l'esplanade, plein d'animations. On pouvait taper des balles, on pouvait faire un mini-golf. Enfin, c'était assez, assez génial. Et tous les gens qui venaient taper trouvaient ça top. Et à la fin, on leur disait, bah, écoutez, c'est simple, comme on l'a dit, vous pouvez aller dans nos golfs, c'est gratuit. Ah ben non. J'ai dit, comment non? Ah ben, on n'a pas de voiture. Donc, effectivement, et d'ailleurs, je fais un appel à la mairie de Paris. Je pense que, effectivement, il faudrait mettre quelque chose en place. Je pense aussi, puisqu'on l'avait déjà évoqué, dans le 15e, à côté de l'Aqua Boulevard, où il y a les hélicoptères, il y a des endroits où on pourrait faire un golf, ou en tout cas aménagé sur les terrains de foot. Donc je pense que c'est une étape après les Jeux Olympiques. Là, c'est vrai que 2024, c'est compliqué de solliciter les gens parce que à Paris, hein, on imagine bien qu'ils sont occupés et affairés autour de la préparation des Jeux Olympiques. Mais je pense qu'avoir la chance d'avoir du golf au JO à 40 minutes du centre de Paris, dans un lieu qui est le golf national, qui a qui est les championnats du monde amateur, la Ryder Cup, l'Open de France tous les ans. Effectivement, je crois que Paris aujourd'hui, surtout avec le nombre de golfs qu'il y a autour de Paris, hein, plus d'une centaine, nous on en a plus de 30, il y a forcément quelque chose à réaliser.
Parce que le Paris, ici il y a Clonchamp, il y a le 13e.
Mais il n'y a pas de parcours,
c'est tout.
Et il y a surtout Jardy à la première sortie quand on prend la 13.
Voilà.
C'est
voilà.
Ça.
Ouais. Alors justement, on parlait du matériel, Fabien. Ça coûte combien et ça dure combien de temps?
Alors le matériel, ben, j'ai envie de dire que c'est comme tout.
Oui.
Y a tous les prix. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec une centaine d'euros, on a une demi-série, on a un sac et on peut aller jouer et ça peut durer 3, 4, 5 ans. Le matériel au golf, c'est important.
Bah oui, c'est pour ça que...
Non, mais c'est important aussi parce qu'on aime bien avoir son sac à...
Il y a le côté fétiche aussi, peut-être.
À sa couleur préférée. Voilà. On aime bien avoir le dernier club qui envoie la balle plus loin. Donc... mais clairement, nous, quand on l'a dit plusieurs fois, quand vous débutez, on vous offre des clubs avec un sac, mais ça peut vous emmener pendant, je vous dis, 3, 4, 5 ans, parce qu'aujourd'hui, les manufacturiers arrivent à faire du matériel vraiment de qualité en ayant baissé considérablement leur coût. Évidemment, il y a des clubs extrêmement chers, mais chacune et chacun va trouver son plaisir. Mais le matériel de golf aujourd'hui n'est plus un problème pour débuter. Ouais,
ça coûte combien en moyenne?
Ça coûte, je dis, de 100 euros à 25 000 euros.
Voilà, c'est ça. Ah oui, effectivement. Ouais. Mais enfin, 200 euros, ça peut durer quelque temps quand même.
Ah oui, je dis même 100, 150 euros, bien sûr, ça dure 5 ans.
Oui.
Ça dure 5 ans.
Et puis, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'on est entrés, nous, dans une logique de réutilisation du matériel. On a du matériel d'occasion.
Ah oui, ça, c'est important.
On a du matériel à disposition. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en transport en commun de la région parisienne ou avec son vélo, aujourd'hui, il y a des vélos de matériel adapté pour mettre sur le vélo. Dans chaque accueil, il y a toujours du matériel en prêt ou en location. Alors, ça ne sera pas forcément au bon gabarit, mais on fournira toujours un fer-7, un putter comme pour aller faire du mini-golf, 3 balles, et prendre une carte et aller jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel pour commencer le golf. On trouvera toujours dans les golfs du matériel à disposition.
Et j'aimerais ajouter, on ne l'a pas inventé, parce que c'est une grande marque de sport française implantée dans le monde entier qui vend... tous les sports, je pense que tout le monde a compris qui c'était. Ça commence par un D, ça finit par un N.
Tiens, ils viennent d'être sponsors d'équipe cycliste aujourd'hui, ça a été annoncé.
Ouais, c'est canon, et eux ont mis en place, c'est pour ça que je dis que c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on va le faire, parce que Régis l'a dit tout à l'heure, mais on est extrêmement engagé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on veut recycler les clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un matériel qui a une durée de vie d'un an, deux ans. Eh bien, on veut reprendre ce matériel, le remettre en condition normale pour pouvoir le recycler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye clairement de faire attention, mais même jusqu'au transport, parce qu'il faut savoir que les clubs de golf, majoritairement, ils viennent tous d'Asie et que pour venir d'Asie, ils ne viennent pas en vélo, malheureusement. Et donc, on essaye clairement de faire extrêmement attention à ça et de recycler ce matériel qui a été utilisé, mais qui peut être utilisé par d'autres personnes.
Mmh. Ouais, c'est important.
Tu vois, nous, on fait exactement la même chose sur les balles de tennis, du tournoi de tennis. On les recompose ensuite pour les débutants, pour celui qui se dit, tiens, je joue dimanche matin. Des balles d'occasion, des balles qui ont fait un match, deux matchs, et ben je peux les réutiliser, comme pour les enfants qui veulent commencer. Et on a beaucoup de golfeurs, ce que j'appelle des puristes, hein, qui viennent nous voir et qui nous déposent le matériel et qui nous disent, voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, et ben je vous le donne, le matériel, et qui se servent. Ou même pour l'école de golf, c'est du matériel qui peut resservir.
Ouais, les co-responsabilités, et tout à l'heure tu l'as dit, mais dans le golf, on est très en avance comparativement à d'autres sports. On fait et encore une fois, ben, je pense que vous l'avez vu, on a des golfs qui ont été saccagés. Heureusement, touché du bois, les nôtres non. Mais parce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des discours qui ne sont pas du tout en adéquation avec la vérité. Et la filière golf fait un travail considérable et depuis longtemps. Tout à l'heure, on parlait, Régis fait partie de ces golfs qui sont en zéro phyto depuis longtemps. À partir de 2025, ça sera pour tout le monde. Et donc, on essaye, on anticipe énormément. On ne pourra plus mettre ces produits. Eh bien, on trouvera d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est génialissime, et c'est la robotisation. Oui. Aujourd'hui, il y a des robots électriques qui sont rechargés avec des panneaux solaires. Et je vous assure, c'est les résultats de l'herbe, c'est hallucinant, c'est considérable. Donc on est clairement engagé dans cette comment dirais-je, stratégie. Et l'autre chose, on en parlait, nous on a fait une étude là de tous nos golfs pour voir où les bus s'arrêtaient par rapport à nos golfs. Et donc on va tenter d'aller solliciter les collectivités. Bien, pourquoi pas, pour changer l'arrêt de bus, pour dire, regardez, mais permettez à des enfants, permettez à tout le monde d'arriver proche des golfs,
ah, ça,
pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
Mmh. Dernier petit mot, il y aura des actions dans le cadre de Paris 2024 à Jardy.
Oui, tout à fait. Il y aura un écran géant qui va être mis en place pendant les Jeux. Et puis avec beaucoup d'initiations gratuites de golf, de tennis, avec des baptêmes. L'équitation également est très engagée dans cette dynamique-là. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir toujours au plus grand nombre l'activité pour tous les âges, pour tous les publics, sur des sites qui sont gratuits. Hein. Le parking est gratuit, les accès est accessible en bus, en transport en commun, en vélo. Et il y a les coulées vertes qui sont mises en place aussi avec la commune de Vaucresson et de Marne-la-Coquette et le département des Hauts-de-Seine, de façon à rendre accessibles ces domaines départementaux pour tous les publics. Et on sera totalement dans l'action. Et moi-même, qui suis au comité directeur de la Fédération française de golf, on est très engagé parce que justement, YouGolf est représenté depuis presque 4 ans à la Fédération de golf, comme Blue Green, pour justement porter toutes ces valeurs au milieu fédéral, au mouvement sportif, en disant le golf est ouvert à tous, même dans nos secteurs d'activité, dans notre secteur commercial, notre secteur pour tous les grands publics, et on peut créer des nouveaux golfeurs.
Et puis Fabien, on aura peut-être une médaille avec Céline Boutier.
Mais évidemment.
Ça sera une belle...
Non mais évidemment, alors évidemment avec Célim, mais avec d'autres, parce que le golf professionnel masculin et féminin se porte de mieux en mieux. Mais j'ai aussi envie de dire que on a quand même, enfin quand nous, moi je suis un vieux monsieur maintenant, hein, à 53 ans, mais moi j'ai eu, enfin, dans notre pays, à Paris, de vivre des Coupes du Monde, on va vivre les Jeux Olympiques. Enfin si Dieu me prête vie jusque-là, mais je trouve ça... Et encore une fois, nous, on voit que les problèmes. Alors que ça serait tellement extraordinaire que le pays, que la ville, que ça, le sport, moi, je trouve que ça a des vertus incroyables du vivre ensemble, du partage, d'éducation. Ouais, donc ça serait quand même vachement bien. En tout cas, c'est ce qu'on prône, nous, au golf. Ça serait quand même vraiment bien que cet événement qui est hallucinant... On le porte toutes et tous ensemble en disant mais quelle chance incroyable dans la plus belle ville du monde d'accueillir ces Jeux Olympiques, d'en faire une fête, d'en faire un moment mais unique, plutôt que de voir, enfin encore une fois, politico-politicienne.
Voilà, allez, la deuxième pause, Los Lobos, La Bamba. Ensuite, on va retrouver le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos.
Bon,
Voilà.
Ça va la bête.
Ça va et toi?
Ça va bien?
Ouais.
Bonjour.
Ça va bien? Ça va bien, merci.
Non, mais c'est pour les réseaux sociaux.
Alors, faut les dans le fichier.
Allez, venez là, là pour les photos, là, Régis, dépêchez-vous parce que je vais prendre l'antenne. C'est bon, il y a tout le monde là, Laurent. Tu vois tout le monde à bout ? C'est pour les réseaux. Attends. Impeccable. Tiens.
Ah mais j'ai pas de retour, j'ai zone, c'est normal. J'ai pas de retour, c'est normal.
Voilà, et tout de suite après bah, mon Paris FM, émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast, il y a au bout du foot, hein, le foot sous un autre regard, sous un autre angle. Bonsoir Malik.
Bonsoir Philippe.
Voilà, donc tu vas nous, ça va très bien, tu vas nous donner un somptueux programme encore ce soir.
Ah oui, au bout du foot, hein, tout de suite à 20h30, à la fin de mon Paris Sport, on enchaîne tout de suite. On va parler de nos deux Olympiques, hein, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Où rien ne va plus. Est-ce que le problème, ce sont les joueurs? Est-ce que c'est Longoria? Est-ce que c'est Textor? Est-ce que ce sont tout simplement c'est l'environnement général? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'Olympique Lyonnais, au niveau de l'Olympique de Marseille? On en parle dans Au bout du foot. Également, le Stade Rennais, on va en parler. Il y a Julien Stéphane qui est revenu justement sur le banc du Stade Rennais. Est-ce que c'est un manque d'imagination au niveau justement des dirigeants également dans Au bout du foot? Coupes européennes dès mardi, hein, on a Paris qui va tenter de se qualifier face à Newcastle. Également Lens face aux Gunners. Est-ce que Lens pourra rééditer l'exploit du match aller? On en parle également dans Au bout du foot. La chronique, quel choix, pour quel résultat? Jonathan Clauss, l'Olympique de Marseille, tu l'as vu hein, ce week-end, encore une fois, un but en sélection nationale, un but. Est-ce que finalement l'équipe de France a fini par trouver son latéral droit? On va l'évoquer dans Au bout du foot. On va également parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Situation très délicate pour le Brésil, en 3 défaites consécutives, 6e des qualification. L'absence de Neymar est-elle préjudiciable? Est-ce que finalement le Brésil sera au prochain mondial? C'est également dans le sommaire d'Au bout du foot. Et puis on va terminer justement avec l'Euro 2024 qui approche à grands pas cet été du côté de l'Allemagne. Le point sur les équipes déjà qualifiées pour cet Euro. Et on va également évoquer les absents potentiels et qui sont éventuellement les favoris. Ça arrive à 20h30 sur mon Paris FM, Au bout du foot. Restez en place.
Voilà, merci Malik. Et puis j'enchaîne tout de suite avec donc notre ami Stéphane Dezenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Alors, est-ce que Stéphane Dezenclos m'entend? Stéphane, bonsoir.
Ouais.
Bon, ouais, alors, on va commencer le point foot peut-être avec... Est-ce que Stéphane m'entend ?
Oui, je t'entends.
Ah ben voilà, moi, c'est parfait. Stéphane, donc, après le programme donc, donné par Malik, on va revenir sur cette semaine de foot. On va commencer avec ce match de l'équipe de France contre la Grèce. Hein. L'équipe de France qui s'était donné le pari de gagner tous ses matchs. Il ne lui a pas manqué grand-chose, elle finit invaincue, mais c'est un match nul contre la Grèce de partout. Bon, qui ne change pas grand-chose à sa situation, mais c'est vrai que c'est un match que l'équipe de France aurait pu gagner toutefois.
Ouais, aurait dû même.
Oui, mais absolument.
Le ballon est rentré, donc il n'y a pas... moi, j'avoue, je ne sais pas vous, ni les auditeurs, j'ai appris à ce moment-là qu'il pouvait y avoir encore des matchs comptant pour encadrés par l'UEFA officiel, des éliminatoires d'Euro comme ça, sans la Gold Line technologie. Donc, c'est un truc... c'est un truc un peu fou, quoi. La l'UEFA ou la FIFA, je crois que ça dépend surtout de la FIFA, qui gagne des millions, des millions, des millions avec les Coupes du Monde et qui n'est pas foutu de mettre 100 ou 200 000 euros dans des stades, que la Grèce, ce n'est pas non plus Gibraltar, justement, ou une petite nation, quoi. Je ne sais pas, ils sont 50e là, peut-être au classement, je ne sais pas combien ils sont, mais ce n'est pas un petit village de campagne, quoi.
Donc l'équipe de France, donc on l'a dit quand même malgré tout, donc finit invaincue. Il y a eu des grosses satisfactions, surtout avec quelqu'un qui a été énorme, c'est Fofana sur ce match. Hein.
Ouais, tout à fait. Je crois qu'il a validé son, comme il le disait lui-même, il disait qu'il était toujours dans le groupe, qu'il faisait des petites rentrées, mais qu'en fait il n'avait pas vraiment, en tout cas, le sentiment de prouver qu'il était entre guillemets, il n'a pas dit le mot indispensable bien sûr, mais qu'il était qu'il fallait compter sur lui, de quelque chose à faire pour rentrer dans cette liste des 23, quand il a dû voir que Didier Deschamps lui préférait Zaïre Emery au coup d'envoi contre Gibraltar, alors que lui était là dans le groupe depuis longtemps. Il a dû avoir certainement aussi un petit coup au moral, mais bon, il s'en est remis magnifiquement, puisqu'il a fait deux gros matchs, alors contre Gibraltar, c'était un peu facile. On va dire que c'était le poste qu'il occupe, c'est le poste qui était le mieux servi, je pense le plus tranquille par rapport à une équipe comme Gibraltar. Le joueur qui touche le plus de ballons, qui est le mieux placé pour jouer, il a dû vraiment prendre beaucoup de plaisir. Mais contre la Grèce, c'était déjà un peu plus compliqué comme match, et puis il a répondu présent.
Voilà.
Donc je crois qu'il a validé sa place dans la liste de Deschamps.
Alors Stéphane, on en parlait déjà la semaine dernière, mais cette fois-ci, ça y est, c'est fait. On connaît donc les 21 équipes qualifiées donc pour l'Euro. Trois autres donc le seront à l'issue des matchs des barrages. Donc très brièvement, on sait que la France et les Pays-Bas accompagneront l'Allemagne, avec aussi l'Italie, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Écosse, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Turquie, la Croatie, l'Italie aussi, qui a obtenu vraiment ric-rac, c'est moins qu'on puisse dire, sa qualification. Hein.
Ouais, avec un pénalty ou pas, très discuté. Bon, moi, vous savez mon point de vue. Moi, j'ai coutume de dire, vous m'avez rarement entendu critiquer sur cette antenne les décisions, en tout cas, de la VAR, comme on a. Hein, dire que, ouais. Et ils ont regardé. Je vois pas pourquoi l'UEFA aurait voulu que ça soit plus l'Italie que l'Ukraine qu'aille à l'Euro. Donc, ils ont décidé. C'est vrai qu'on a beau, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai vu 45 fois l'occasion, l'action, je veux dire, je l'ai vu 45 fois, je suis incapable de dire si c'est évident qu'il fallait siffler pénalty. Donc, c'est toujours très... Maintenant, il faut qu'on apprenne aussi à faire confiance. Il y a trois personnes. Alors, peut-être que les trois se sont trompés, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça a été effectivement très chaud. Et bon, le match, c'est quand même 90 minutes. Hein. Là, ça a été 95 ou 87 minutes. Ce n'est pas une minute ou la minute où il y a l'incident, quoi.
Alors, en dehors de ça, il y aura quand même des matchs de barrage. Hein, ça sera en mars prochain. Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande, ça sera pour ce qu'on appelle la voie A. La voie B, on aura un Israël, Islande et Bosnie-Herzégovine, Ukraine. Et la voie C, donc Géorgie, Luxembourg et Grèce, Kazakhstan. Finalement, il manque deux grands absents, c'est la Suède et la Norvège.
Voilà, et encore, bon, de grands absents.
Ouais, si on regarde, c'est une façon de parler.
Sur les dernières années, c'est pas des... Voilà, Norvège, on en parle beaucoup de son absence parce qu'il y a des grands joueurs. Ça, c'est ce que j'ai pu déjà dire sur cette antenne à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y a pas uniquement Erling Haaland, hein, il y a aussi Odegaard, quand même le capitaine de l'équipe qui est en tête de la Première Ligue. Et puis après, d'autres derrière qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont pour certains des bons joueurs qui jouent dans des grands clubs, hein, le défenseur central de Naples, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très étonnant. C'est très étonnant qu'il n'y soit pas. Maintenant, la Suède aussi, il y a certainement des équipes comme l'Albanie qui ont gagné leur place et qui paraissent moins forts sur le papier que les Suédois. Mais voilà, quoi. Et surtout, ce qui est grave, ce qui est particulièrement grave, je trouve, pour ces équipes, c'est quand la Suède, j'ai pas de certitude là, j'ai pas entendu ce que vous avez dit comme ça, mais c'est qu'elle ne joue même pas les barrages.
Non, même pas.
Ouais, ça veut dire que non seulement ils n'ont pas été bons dans les qualifications de l'Euro, il faut quand même rappeler que la Norvège, elle est dans le groupe de l'Écosse. Donc l'Écosse, dis-toi maintenant, quand on dit oui à Erling Haaland, il n'est pas à l'Euro, mais bon, le pauvre, il n'a pas de chance, il est avec une petite équipe et tout. Ne me dites pas que l'Écosse est beaucoup plus fort que la Norvège, par exemple, quoi. C'est pas possible. Et puis en plus de ça, ils n'ont même pas réussi à terminer dans les équipes qui sont repêchées, puisque beaucoup d'équipes qui sont en tête de leur groupe dans les différentes Ligues des Nations sont qualifiées. Donc quand elles sont qualifiées, on descend pour prendre les équipes qui sont derrière, mais même en descendant et tout, on n'arrive toujours pas à la Norvège, quoi, qui n'a pas marqué assez de points, ou donc la Suède également, qui n'ont pas marqué assez de points dans leur pool de Ligue des Nations pour avoir le droit d'être, entre guillemets, les repêchés avant d'être repêchés, quoi. Donc c'est quand même très inquiétant quand même, quoi. Ouais. Je sais pas, j'avoue ne pas comprendre pourquoi la fédération norvégienne, par exemple, continue avec son sélectionneur, quoi.
Alors, donc, tirage au sort, on en reparlera la semaine prochaine, hein, à 18h, donc ce samedi, à Hambourg. On replonge maintenant dans le championnat de Ligue 1. C'était la 13e journée. Bon, cette fois-ci, on a marqué des buts dans ces journées de championnat. Hein. On ne s'est pas ennuyé, là. Hein. À l'image d'un match qui a été fabuleux entre le Paris Saint-Germain et Monaco. 5-2 pour le PSG. Hein. Victoire de Lens à Clermont 3-0. Match nul qui n'arrange surtout pas encore les Marseillais à Strasbourg 1-1. Victoire de Nice devant Toulouse 1-0. Nice toujours invaincu. Victoire de Brest à Montpellier 3-1. Et puis Rennes qui bat Reims 3-1 avec donc le retour de Stéphane, et puis Lyon qui s'enfonce un peu plus, battu à domicile par Lille 2-0. Alors au classement, donc Paris en tête avec 30 points devant Nice, deuxième 29, qui creuse un petit peu l'écart sur Monaco, troisième 24 et quatrième Lille 20. À noter que Lens est sixième avec 19 points, Marseille 12e 14 points, et puis 16e Lorient 11 points, 17e Clermont 9 points et 18e et dernier Lyon 7 points. À noter qu'il y a quand même 5 points entre Le Havre et Metz qui sont 8e et Lorient qui est donc le 16e.
Voilà, tout à fait. Bah, ce qui est d'ailleurs même incroyable dans ce classement, c'est de voir effectivement des équipes comme Le Havre, Metz, qui sont devant l'OM et Lyon, quoi. Bon, ça, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense, juste après dans l'émission avec Malik. Mais c'est sûr que c'est quand même assez incroyable, quoi. Vous avez vu ça. Alors, c'est la preuve aussi que le championnat est quand même très 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 serré.
Oui.
Parce que une équipe comme Metz, par exemple, moi aujourd'hui, je prendrais pas le pari que Metz va arriver à se maintenir, quoi. Mais ceci dit, aujourd'hui, ils sont huitième de Ligue 1, donc c'est quand même assez impressionnant. Puis vous n'avez pas donné dans vos résultats, effectivement, victoire 3-2 de Metz, oui. Bah, à Lorient.
Oui, oui.
C'est Lorient qui a vraiment pas de chance parce qu'ils avaient la possibilité, ils poussaient pour à 2-2, ils poussaient pour gagner le match, et puis ils se prennent un pénalty sur un contre bien joué des Messins, et donc ils perdent le match comme ça. Et mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de buts. Ça fait, j'ai un peu l'impression, bah, vous qui suivez ça aussi, des fois qu'on retrouve un peu l'état d'esprit de la Ligue 2, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est capable de, avant une journée de Ligue 2, tout le monde est capable de faire un résultat partout. C'est quand même une spécificité énorme de la Ligue 1. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pauvre ou pas? Je ne sais pas, mais que avant, avant une journée de championnat, il y a quasiment l'impossibilité. Alors, peut-être, et encore, si maintenant c'est revenu, parce qu'ils ont mis le braquet, ils ont passé le grand braquet, mais même avant que le Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas, de prédire un club qui va gagner. Qui va gagner tranquillement, quoi. Tout peut arriver dans les résultats, tout peut arriver, quoi. Donc c'est assez incroyable, quoi.
Alors justement, la Ligue 2, on en parlait, 15e journée, hein, ça va un petit peu mieux pour Laval qui est allé gagner à Dunkerque 2-0, nul entre Bastia-Auxerre 0-0, Grenoble a battu Rodez 2-1, défaite de Saint-Etienne à domicile devant Pau 2-1, et puis du Paris FC battu aussi à domicile par Bordeaux 2-1, va se jouer ce soir à 20h45 Angers-Caen, match qui va être chaud entre vu le contentieux des deux présidents. Donc Laval en tête avec 32 points, devant Angers et Grenoble 27 points, 4e Auxerre 26 points, 5e Guingamp, Saint-Etienne 24. Et puis en bas de tableau, on a le Paris FC qui est 14e à égalité avec Bastia 17 points. Et puis surtout, donc 3, 17e 13 points. 18e, donc Quevilly, Rouen et Dunkerque 12 points. Et 20e et dernier, donc Valenciennes 10 points.
Voilà. Et 3 qui a décidé après cette défaite, ils ont perdu, de se séparer de son entraîneur, qui a attendu aussi très longtemps. L'année dernière, c'était déjà pas vraiment enthousiasmant en Ligue 1 pour les derniers matchs. C'est pas enthousiasmant maintenant depuis 13 ou 14 matchs. Et puis là, bon, ils décident enfin de changer d'entraîneur. Et donc voilà, maintenant tout peut arriver. Mais le fait marquant quand même de la Ligue 2, c'est Saint-Etienne qui est en train de s'aborder, quoi. Qui vient, je crois qu'ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs.
Ouais, mais enfin, bon. 2-3. Ouais, ouais, mais enfin, ils sont encore cinquième quand même. Hein. Bon,
oui,
ça va.
Oui, bien
c'est
sûr.
Pas, c'est pas dramatique.
Bien sûr, c'est pas dramatique, mais c'est quand même un championnat extrêmement compliqué. Et si vous commencez à perdre des matchs, notamment par exemple Pau, qui était avant le coup d'envoi, peut-être dixième, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que je comparais avec la Ligue 1. Quoi. C'est quand même incroyable que. T'es deuxième ou troisième de Ligue 2, tu joues à domicile en plus avec un des meilleurs publics de France qui les accompagne même en Ligue 2 contre Pau, et tu mènes 1-0 et tu perds le match. Donc c'est quand même un peu, sur ça je dis c'est un peu saborder, quoi, s'ils avaient ne serait-ce que 4 points de plus sur ça. Alors maintenant effectivement tout est possible, bien sûr, on est qu'à un peu plus du tiers de la saison, donc tout peut arriver. Surtout, je vous dis, tout le monde peut battre tout le monde, donc il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. On l'a vu, Laval qui a été en tête longtemps, bah, qui l'est toujours peut-être en tête,
oui.
qui finalement, à un moment, a été limite de jeter, qui regagne là, bon, à Dunkerque, c'est pas fort du tout, ça va retourner, je pense que ça va retourner en national, certainement, mais c'est ça qui est absolument incroyable, quoi.
Oui, alors, en national, donc 14e journée, bah, le Restart a été battu par Dijon 3-1, bon, ce qui n'empêche pas le Restart d'avoir une large avance sur Niort, hein, 32 points pour le Restart, deuxième Niort, 24 points, Niort qui joue contre Sochaux actuellement 18h30, et puis Versailles qui a une nouvelle fois changé d'entraîneur, qui s'impose devant Épinal 4-1, Versailles est 7e avec 20 points, voilà, donc ils sont pratiquement en milieu de championnat.
Ouais, tout à fait. Ouais, bah Versailles a fait une bonne opération là, en gagnant son match. Ils se sont bien replacés. Bon, maintenant c'est pareil c'est la même chose que pour la Ligue 2 ou la Ligue 1, dans le sens où c'est très serré. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Si vous regardez les résultats et tout, c'est complètement. Il y a 4-2. Les arrêts de jeu, il y a 4-2 pour Niort.
Ah bon, d'accord, ok. Donc ça veut dire que Niort va prendre 3 points, donc ils vont être à 5 points de Versailles. Du Restart, pardon. Voilà. À 5 points du Restart.
Voilà. Ok. Et en sachant que Sochaux, j'ai eu ce week-end le président Plessis en interview. Pour
grand
le
monsieur, qui... grand monsieur. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et puis qui était très. Il est quand même très, très confiant pour son équipe. Il pensait même, si on gagne à Niort, on peut même, pourquoi pas jouer la montée, mais même là, sans gagner, Rien ne dit qu'ils sont pas toujours, ils peuvent toujours, ils ont un match de retard, je crois toujours hein, après ce match-là. Non, peut-être, je ne sais plus. Ils peuvent toujours espérer quoi. Ils sont combien? Sochaux va l'air descendre huitième.
Ouais, huitième, c'est au milieu de tableau. Et je crois qu'ils ont joué leurs deux matchs d'ailleurs. Ils ont joué leur match en retard. Ouais, ouais.
Ils n'auront plus de match en retard. Du coup, ouais, effectivement, il y aurait mieux valu. Ils sont juste derrière Versailles. Qui est septième maintenant Versailles.
C'est ça. Milieu de tableau.
Et voilà. Mais bon, ouais. Je pense que bref, de toute façon, c'est pas ce qu'il veut, parce qu'il attend, il prépare pour l'année prochaine, mais. Il est très confiant. Peut-être une petite info quand même, c'est que lui, il estime carrément que il dit pourquoi pas revivre ce qu'on a vécu une époque avec les Meriem, Froh, Pedretti. Il a vraiment très confiance dans les jeunes qui forment l'équipe et qui sont issus de du centre de formation du club. Et donc lui, il sent bien le l'avenir, vraiment, il faut espérer qu'ils ne partent pas tous ailleurs cet été. Quoi.
Voilà, c'est ce qu'on nous souhaite. Allez, on va en finir pour ces cinq dernières minutes avec les féminines. Alors, ça ne s'est pas très bien passé pour les Parisiennes une nouvelle fois dans la deuxième journée de Ligue des Champions, hein, puisque le Bayern est allé gagner à Jambouin devant le Paris Saint-Germain 1-0. Les Parisiennes sont toujours dernières avec 0 points. Pareil pour Paris FC, largement battu à Chelsea 4-1. Le Paris FC donc aussi quatrième dans sa poule avec 0 points. Ça va beaucoup mieux pour Lyon qui a battu donc Polten 2-0. Lyon première avec Bergen 6 points. Voilà, donc tout va bien pour l'instant pour les Lyonnaises qui en plus bien survolent toujours le championnat féminin de D1 puisqu'ils sont allés gagner largement à Guingamp 5-1 alors que le Paris FC allait faire nul à Reims 1 partout. Victoire du PSG devant Montpellier 4-1. Donc Lyon en tête 27 points devant le Paris FC 27 et troisième le PSG 18 points mais deux matchs en retard pour les Parisiennes.
Voilà, je crois que même en les gagnant, ils arriveront peut-être même pas à revenir deuxième. Hein. Je crois qu'ils resteront troisième. Donc c'est sûr que c'est quand même un peu inquiétant. Maintenant, il se passe des choses au Paris Saint-Germain féminin qui mériterait peut-être qu'on s'y attarde un peu plus. Quoi. Il y a eu un remplacement très bizarre quand même. C'est quand même le Paris Saint-Germain. Hein. Donc quand on voit l'argent du Qatar, alors je ne dis pas qu'ils doivent mettre forcément autant, mais quand on voit ce qu'il y a, et je ne vais pas dire la pauvreté, parce qu'ils ont un bon effectif, mais ils ont perdu, en deux saisons, ils ont perdu quasiment toutes leurs meilleures joueuses, quoi, beaucoup, en dehors de Katoto qui était blessé et qui avait prolongé, ils ont perdu beaucoup de bonnes joueuses. Là, il y a eu un changement d'entraîneur, le père prêcheur qui est remplacé par le fils, qui n'a rien fait, je pense, avant d'entraîner le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. Je trouve que c'est très, très bizarre tout ce qui se passe autour du PSG féminin.
Très bien, Stéphane, merci. Je vais vous laisser donc finir le bouclage, hein, c'est ça?
Ouais.
Ok. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, naturellement, on continue le foot après cette émission avec Malik dès 20h30 au bout du foot, hein, avec un regard un petit peu différent sur le ballon rond. Voilà.
Ok, bonne soirée à toutes et à tous. Et à nous, on se reparle tout à l'heure.
D'accord. Très bien. Merci.
Bonjour à Guy. Il y a Guy qui est là.
Absolument, notre ami Guy que j'ai salué. Voilà.
Tout particulièrement mon ami Guy.
Voilà, allez.
J'embrasse, ciao.
Très bien. Voilà, Fabien, un petit mot sur ce que vient de dire notre ami Stéphane. Vous aimez autant le foot, vous qui êtes né dedans, vous nous l'avez expliqué, vous aimez autant le foot que le golf. Un petit mot sur ce que vient de dire Stéphane, d'une façon générale, sur ce championnat de Ligue 1.
Alors, je vais essayer de résumer, parce qu'il y a beaucoup à dire.
3 minutes. Hein.
Une minute
ouais, trois, pas va. Plus. Hein.
Le championnat de France de Ligue 1 est extrêmement faible, oui. Mais là, j'enfonce une porte ouverte. Oui. Et d'ailleurs, ça le démontre, puisque aujourd'hui, tout le monde peut gagner, à l'exception d'une équipe qui est le Paris Saint-Germain. Ensuite, l'OM et l'OL, c'est assez paradoxal, ils caracolent en tête sur le football féminin et je crois qu'un certain monsieur Jean-Michel Aulas est toujours président de la section féminine. Il n'est plus président
ça
de la section.
Ça explique certaines choses.
Mais évidemment, ils ont perdu leur père spirituel. Alors, en plus, ils perdent leur père spirituel avec une équipe qui a du talent, mais qui depuis quelques années a quand même du mal à trouver un entraîneur qui va les faire jouer ensemble. Donc moi, ce qui arrive, je trouve ça mais totalement logique, avec un président qui est mais totalement à la masse, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc de toute façon, c'est logique. Ensuite, l'OM, c'est plus le club de Tapie ou c'était les Minots, c'était les Marseillais, c'était non, c'est du trading. Donc à un moment donné, bah, quand tu fais du trading, ça marche parfois et puis parfois ça marche pas. Et aujourd'hui, l'OM est dans une période de trading. On le sait, ils achètent des joueurs, ils les revendent, des entraîneurs viennent, ils repartent mais tout simplement parce qu'ils sentent pas qu'il y a un vrai projet sportif.
Comme dans beaucoup de clubs.
Et pourtant, il y a eu de grands entraîneurs avec un vrai projet sportif, une manière de jouer très spécifique et qui était plutôt très plaisante. Mais à un moment donné, quand on te dit que tu vas perdre tes joueurs parce qu'il faut faire du pognon, bah c'est très compliqué. Maintenant, moi, j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League. Et j'ai le sentiment, cette année, qu'une équipe, une âme est arrivée dans cette équipe.
On verra. Attention, c'est enregistré. Allez, juste pour rappeler qu'en national, le Paris Atlético a fait 0-0 avec les Herbiers. Donc, ils sont troisième à égalité, mais un match en moins pour les deux équipes, avec Avoine Chinon et juste à 4 longueurs du leader Libourne. Voilà. Merci Fabien, ça a été un plaisir d'avoir parlé foot et golf.
Alors si tu me laisses juste 30 secondes, moi c'est un immense plaisir et je voudrais te remercier, mais j'ai une énorme gratitude pour toi parce qu'on a déjà fait de la radio avant et que pour qu'on mette le golf et qu'on soit deux personnes qui travaillent dans le golf, certes dans la même société, pour le même groupe de parler de ce sport incroyable, d'essayer de l'ouvrir à tes auditrices et tes auditeurs, donc un immense, immense, immense merci. Maintenant il faut que tu viennes jouer s'il te plaît.
D'accord, ok, merci Régis.
Merci,
à très bientôt.
Merci Philippe,
merci pour
ton engagement pour le sport et merci pour ton soutien, c'est très important. Merci,
merci à Laura.
À la semaine prochaine.
Voilà. Merci à Jason pour la mise en route technique de cette émission. On termine avec Boba comme une étoile. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et puis n'oubliez pas, dans quelques secondes, l'émission À bout du foot avec Malik. Au bout du foot avec Malik. Bonne soirée.
Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier, car j'ai un gilet pare-balles. L'enculé, je serai rapatrié, enterré au Sénégal. Enfin je pourrai trouver le calme. Je serai seul comme une étoile. Comme une étoile j'ai disparu depuis longtemps, mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers et quitté le chantier. Obscène, obscène, africain comme un entier. Libéré de mes entraves, me venger comme un droit. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Malheureusement je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis près de moi. Tu trouves que la terre est belle, elle est plus belle vu de là-haut. Un nègre est un bon nègre quand il est dead sur le carreau. J'éclaire cellules s'il est barreau. Sur ses notes de piano, regrette l'époque du Raluciano. Aigle royal, dernier voyage. Fais péter le son dans la gorge, rends-moi hommage. J'ai tout ce que je mérite, trouve pas ça dommage. Ni pute ni soumise vont se réjouir, ces sales connasses. Banlieusard dans le sang, peu importe ce que Sarko fasse. 92 en sarcophage, et le piano m'endort. Terminator est mon mentor, récupérer mon or, j'en rêve encore. Juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû se me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier, car j'ai un gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié, enterré au Sénégal. Enfin je pourrai trouver le calme. Je serai seul comme une étoile. On ne m'entendra plus, on ne me verra plus. Regarde vers les nuages, tu verras voler ma plume. les deux os sont moins 8 os. On contrôle la zone si je ne fais pas face à ces négros. Leur lame se plantera dans mon dos. Tu crois que je vais mal, que je ne dors plus. Tu voudras sécher mes larmes, mais il y a bien longtemps que je ne pleure plus.